Bonjour tout le monde. Bon, après Michel, c'est vachement facile. On va aussi parler d'environnement, remarque. Avec ça, on a toujours été d'accord avec Michel depuis le temps qu'on se connaît, que l'environnement, c'est la question. Pourquoi je me retrouve là ? Parce que je travaille donc depuis 1991 en maladie infectieuse, donc avec un certain recul sur l'épidémie. Que par ailleurs, j'avais une expérience sur l'accompagnement des femmes en général et que j'ai remarqué un certain nombre de similitudes entre la situation des femmes en général et la situation des femmes séropositives en particulier, et que cette réflexion m'a amené à m'investir sur la question de la visibilité et de la parole des femmes séropositives qu'on entend assez peu. Pour des raisons d'environnement aussi, on y reviendra. Voilà. Donc, je vais commencer une présentation un peu générale et Catherine vous expliquera plus en détail la question auprès des femmes séropositives. Alors, tu as parlé de la question, brillamment, de la question de la sexualité gay. Pour les femmes, ça serait plutôt qu'on voudrait les inciter à aller vers la sexualité, parce que, comme ça a été dit, je crois, ce matin par Bruno, c'est vrai qu'à l'annonce de la séropositivité, il y a souvent un arrêt de la sexualité, longtemps, pour les femmes, et ça n'arrive pas par hasard. C'est pas juste que, quand on regarde les enquêtes sur la sexualité en France, on remarque qu'il y a un certain nombre de caractéristiques associées à la sexualité des femmes, avec, comme on peut le voir, des écarts dans l'entrée en sexualité. On a un rapprochement. Maintenant, l'entrée en sexualité, c'est une des évolutions, se fait à peu près à la même âge pour les hommes et les femmes. Mais quand on regarde le nombre de partenaires déclarés, on est à 12,9 pour les hommes et 5,1 pour les femmes. Mais on a constaté aussi que les femmes ont tendance à déclarer ce qui est socialement admis. Et ce qui est socialement admis, comme l'a souligné Michel pour la question de l'homosexualité et des gays, c'est aussi une des contraintes externes et de l'environnement qui fait que les femmes se sentent plus ou moins dans une situation d'exposition à des risques. On l'a vu sur les enquêtes d'ailleurs, sur les enquêtes de PrEP pour les femmes, où les femmes, une des raisons d'échec, c'était que les femmes ne se sentaient pas dans une situation d'exposition au risque. Ce qui ressort aussi de cette enquête, c'est que par nature, les hommes ont plus besoin de rapports sexuels que les femmes. C'est pas très encourageant pour les femmes, donc il va falloir qu'on insiste pour pouvoir avoir une sexualité épanouie. Qu'il y a des différences dans la socialisation à la sexualité. Les jeunes femmes sont éduquées pour avoir une sexualité avec des sentiments relationnels, et quand il y a une prise de distance par rapport à ces normes, il y a toujours une forme de discrimination, de critique, et elle est extrêmement fonction du niveau social, c'est-à-dire que plus le niveau social est élevé, plus on est en capacité de prendre de la distance par rapport aux normes de la sexualité pour les femmes, et qu'on est dans une asymétrie avec désir et besoin masculin et aspiration affective et disponibilité féminine qui a un impact sur la gestion des risques. C'est-à-dire que c'est plus difficile pour une femme d'être dans une sexualité comme elle en a envie, avec une déprise de risque, et de se sentir en capacité de le gérer, parce que socialement, ce n'est pas accepté. Donc on est dans un rôle de l'environnement. Ces données sont extraites de l'enquête sur la sexualité en France, Nathalie Bajos et Michel Bouzon. Alors pourquoi on a mis notre titre avec Catherine sur la santé sexuelle des femmes impensées ? D'abord parce qu'on ne pense pas à la santé sexuelle des femmes, on pense d'abord à la reproduction. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur la contraception ou sur l'avortement, parce que ce qui intéresse quand même, et on l'a vu dans le sida, la première chose qui a intéressé, y compris l'épidémio, c'est la question de la transmission mère-enfant. Et puis les femmes dans le lot, elles étaient invisibles. Mais ça, par contre, la question de la reproduction, s'en était occupée tout de suite. Donc, enjeux reproductifs centraux, séparés du VIH et des autres IST. Il y a eu différentes enquêtes qui montraient que les gynécologues, par exemple, ou les médecins généralistes, ne pensent absolument pas à s'intéresser à la question des IST pour les femmes. SIDAF au service avait fait une enquête à un moment donné, les gynécos disaient, les femmes, pour les jeunes, ça peut encore aller. Après, les femmes, une fois qu'elles sont mariées, elles font des enfants, elles sont fidèles, et ensuite, elles sont ménopausées, donc elles n'ont plus de sexualité, donc on tire le rideau. Voilà, donc c'était un peu les images des soignants, et quand on discute avec les femmes, qu'elles soient séropositives ou pas, quand on leur dit, est-ce qu'on a parlé avec vous, votre gynéco, est-ce qu'il a parlé de risque ST, pratiquement jamais. On est soit sur la contraception, soit sur le dépistage du cancer du col, et on ne parle pas de sexualité, ni de prise de risque, ni de IST. Donc on est dans une vision très reproductive de la sexualité des femmes, et que ça, effectivement, rend plus difficile l'utilisation du préservatif. On est aussi, on voit actuellement l'augmentation de la contamination après 50 ans, et entre autres pour les femmes, et on se rend compte que l'activité sexuelle après 50 ans est passée de 50%, 70% à 90% en 2006, donc il y a une réalité, mais pas de discours, pas de prise en charge, pas d'attention sur cette question, et absence ou insuffisance de désir sexuel est rarement considérée comme un problème. Et comme anecdote, moi je travaille dans un service où on avait à un moment donné considéré que la question de la santé sexuelle pouvait nécessiter l'accueil par une consultation de sexo. Donc il y a quelqu'un qui est venu, c'est un homme, donc vous voyez que des hommes. On a dit, bah mince, peut-être c'est parce qu'il faudrait qu'il y ait une femme. Donc on a mis une femme, bah, il voyait personne. Et on a mis finalement une femme séropositive qui s'était formée, et elle voyait beaucoup de monde, et elle discutait de quoi ? De la vie en général, du bien-être, de la relation à l'autre, et que les femmes ne se sont pas reconnues dans une consultation de sexo. Donc on voit bien que les normes et la représentation de la sexualité féminine fait que les femmes en sont aussi très porteuses. Et le dernier point, c'est que... Alors j'aurais pas dû mettre bisexuel, non, je ne mettrai plus jamais. Mais on voit une... Les femmes bisexuelles, invisibles et oubliées, fortement exposées aux IST, aux IVG, en particulier les femmes lesbiennes, pour qui alors c'est le désert sur la question de la santé sexuelle au niveau des soignants ou au niveau des espaces de prise en charge, parce que les gynécos, ça ne les intéresse pas, qu'il y a un taux d'IVG et d'IST qui est supérieur pour les femmes lesbiennes qui ont des relations avec des hommes, et qu'il n'y a aucune préoccupation, aucune réflexion, aucun espace qui se construit pour penser que, en dehors de la contraception, les femmes ont aussi besoin de parler de sexualité et de prise de risque. Donc, réduction de la santé sexuelle à la santé et de la santé reproductive, acceptation difficile du droit des femmes à disposer de leur corps. On voit que sur la question de l'avortement, par exemple, on a encore du taf, que ce soit en Europe ou dans le monde. Et on constate avec les femmes en général et avec les femmes séropositives, c'est l'insuffisance de la promotion d'une approche globale. On coupe les 32 saucissons, les réductions des risques pour le VIH et IST d'un endroit, les grossesses non prévues de l'autre, l'avortement dans un troisième endroit, et que cette approche globale permettrait justement de s'occuper du bien-être de la santé sexuelle au sens de l'OMS, comme a été dit ce matin par Charlotte. Auquel je dois rajouter, d'ailleurs, Charlotte, il y avait un petit oubli historique, c'est que la santé sexuelle est arrivée par les droits reproductifs et que la question des droits était amenée par le courant féministe. Et d'ailleurs, Gabrielle Girard a écrit un excellent papier sur les combats féministes dans le champ de la santé qui ont ouvert la porte à l'empowerment dans la lutte contre le sida, dans la mesure où, effectivement, les femmes ont pris en main les choses et que l'empowerment de la lutte contre le sida, la mobilisation sociale à la lutte contre le sida s'est appuyée sur ces courants féministes dans les années 70, puisqu'il y avait des liens très forts entre le phare, les courants de lutte contre l'homophobie, de revendication homosexuelle et le mouvement féministe. Voilà, petit rappel historique. Voilà, que quand on parle de la question d'environnement, le contexte relationnel est insuffisamment pris en compte. Hein, les questions des inégalités entre les hommes et les femmes n'est pas pris en compte dans la façon dont on conçoit la santé sexuelle. Et que la lutte contre les violences, inscrite dans le champ des droits par les associations qui luttent contre les violences, n'est pas dans celui de la santé sexuelle. Et ça, c'est très regrettable, parce que vous pouvez imaginer comme la santé sexuelle est possible quand on est victime de violences. Ça fait quand même très longtemps qu'il y a un certain nombre de gens qui disent dans la lutte contre le sida dans le monde que tant qu'on ne prendra pas en compte la question des violences, on aura une féminisation de l'épidémie qui va continuer, et que c'est un fléau qui a une acceptation sociale qui est incroyable. On a une femme sur cinq dans le monde qui sera victime de viol ou de tentative de viol au cours de sa vie. Pour les 14-55 ans, on voit que c'est beaucoup plus important. Des violences infligées par le partenaire pour une femme sur trois. En France, il y a quand même une femme qui meurt tous les trois jours sous les coups de son mari. 40 à 50% des femmes de l'Union européenne ont fait état d'une forme ou d'une autre de harcèlement sexuel. Et qu'en Belgique, 24% des femmes ont subi des violences de nature physique ou sexuelle par leur partenaire. Donc on a vu tout à l'heure comment l'homophobie pouvait peser sur la capacité ou la capacité à se protéger, etc. Ben, on est dans le même type de mécanisme, c'est-à-dire que l'environnement, quand il y a un environnement qui est dénigre, qui a un statut social inférieur et qui en a des violences, ben, on n'a pas la possibilité d'avoir une santé sexuelle épanouie et de pouvoir accéder facilement à une prévention. On a juste encore 2-3 dernières informations. Les violences, on a une étude à Lomé qui a été faite par Renaud Becquet dans le cadre de la NRS, qui montre que 56% des femmes étaient victimes de violences, 81% des femmes séropositives étaient victimes de violences. Et les facteurs associés, c'était ne pas avoir partagé le statut et un partenaire qui picolait. Bon, mais ça. Et le premier rapport avant 18 ans. Il y a eu aussi une étude en Alabama, dans la communauté afro-américaine, qui montrait que c'est avant tout l'incapacité des femmes à négocier la sexualité avec un partenaire séropositif violent qui constitue le facteur majeur de transmission. Donc on voit que si on ne veut pas travailler sur l'environnement et sur le statut social, que ce soit pour l'homosexualité ou pour les femmes, on aura effectivement un impact négatif sur la capacité à se protéger. Et surtout à vivre une santé, avoir une sexualité épanouie. Lien de proximité pour les violences, la transmission directe avec des actes de violence sexuelle, la transmission indirecte parce qu'il y a plus de risques pour les femmes victimes de violences et puis la difficulté à se protéger. Alors, on a vu encore l'environnement. Dans l'enquête sur la sexualité, le constat était que si les femmes sont plus touchées, ce n'est pas parce qu'elles sont des femmes au sens biologique, mais parce que la sexualité s'exerce dans un contexte marqué par de nombreuses inégalités. Et on voit que ce qu'on a constaté sur l'inégalité dans la sexualité, c'est révélateur d'inégalité dans les autres sphères sociales. Et c'est exactement ce que tu disais. On a, dans l'enquête VESPA, on voit que, vous voyez les colonnes vertes, même si vous ne voyez pas ce qui a marqué, chaque fois, à côté, à gauche, vous avez les hommes. Quand on regarde les usagers de drogue, la pauvreté, 52% des femmes, 37% des hommes. Quand on regarde les migrants, 44% pour les hommes, 52% pour les femmes. Quand on regarde en général, 18% pour les hommes, 27% pour les femmes. Elles sont toujours plus pauvres, quelle que soit la situation. Elles sont aussi plus discriminées. On a de la même façon, chez les usagers de drogue, 22% de discrimination pour les femmes, 17% pour les hommes, 18% pour les migrants, 8% pour les hommes, et 20% pour les autres femmes, et 6% pour les hommes. Donc on voit que ce contexte d'environnement va être un contexte de la sexualité des femmes en général, mais de la sexualité des femmes séropositives en particulier, et qui va peser, et qui doit être pris en compte quand on veut travailler sur la santé sexuelle des femmes séropositives. Ces questions-là doivent faire partie de la compréhension de la façon dont se pose le vécu de la sexualité, parce que les femmes séropositives sont aussi des femmes et que ces questions-là reviennent, et Catherine va vous en parler, dans les rencontres qu'on a pu organiser. Ces rencontres montrent que cette parole porte aussi toutes ces inégalités sociales et ces inégalités de statut social et de discrimination. Chers camarades.
Donc, moi, je vais continuer ce topo en qualité donc de coordinatrice du collectif interassociatif Femmes et VIH, qui regroupe donc à l'heure actuelle 13 associations de lutte contre le sida et de lutte pour les droits des femmes. Et aussi, par rapport à mon expérience de coordinatrice du programme Femmes et Sida au planning familial, donc qui travaille sur cette question, et aussi par rapport à mon expérience personnelle en tant que femme vivant avec le VIH depuis 1987. Donc, et aussi les étapes qui m'ont amenée presque, je vais dire, aujourd'hui, ici, en face de vous. C'est-à-dire, pour moi, en tant que femme, contaminée, donc 1987, c'est le début de l'épidémie. Très vite, pour avoir vu des amis, un compagnon, être malade du sida, avoir été suivi, puis malade, et puis qui sont morts du sida. Je me suis très vite rendu compte que moi, en tant que femme, ça ne se passerait pas du tout de la même manière, parce que justement, j'étais une femme, et que ce soit au niveau du suivi, que ce soit au niveau de l'évolution de la maladie, c'est-à-dire, là, pour le coup, physiquement, et aussi par rapport à ma place dans la société, tout allait être différent, et pourtant, je ne voyais rien, je ne trouvais aucune documentation, je ne voyais rien, il n'y avait personne vers qui me tourner, ou du moins dans le petit village dans lequel j'habitais à cette époque-là. Et donc voilà, tout ça pour dire que effectivement le sida pour les femmes c'est pas la même chose que pour les hommes, et tout au long de la présentation j'espère que je vais réussir à vous expliquer correctement pourquoi il faut que je mette mes lunettes. Donc, parce que voilà, au début de l'épidémie, j'ai commencé à le dire, la prise de conscience de la place des femmes dans l'épidémie s'est faite tardivement. Au début, vous le savez tous, ça a été la maladie des homosexuels, puis des homosexuels, des toxicomanes. Pour les femmes, on parlait des prostituées, et puis après des femmes d'origine d'Afrique subsaharienne. Donc on était classés dans les femmes hétérosexuelles, mais c'est tout. Et puis après, un peu plus tard, dans les populations dites vulnérables. Donc c'était les jeunes, les personnes en prison. Et donc il y avait pas vraiment de prise en compte. On était voilà, il n'y avait pas de suffisamment de monde. Et ce classement ne tenait pas compte aussi ne tient pas compte toujours même encore aujourd'hui de la situation à risque auquel les femmes sont confrontées, et aussi n'a pas permis aussi l'élaboration d'une réponse préventive adaptée. Et aujourd'hui, on le voit aussi, et quelque part, les conséquences aujourd'hui sont là par rapport à la contamination des femmes et à la contamination des femmes de tous âges. On voit qu'aussi maintenant, une constante augmentation de la contamination des femmes de plus de 50 ans à l'heure actuelle, parce que les femmes sont passées à travers les messages de prévention, et comme le disait Karine, et c'est sur ça aussi qu'on se bat, c'est qu'on a été regardé que dans le cadre de la transmission de la mère à l'enfant, c'est-à-dire, et après, en tant que femme, il y a eu très peu de prise en compte, et du coup, très peu de données, et très peu de recherches, très peu de données, et très peu de choses pour répondre à nos questions. Donc, quand je disais que tout à l'heure, j'ai commencé à militer dans une association qui s'appelle ACT UP Paris. À une époque même, j'ai travaillé avec un ACT UP Bruxelles. Il y avait un ACT UP à Bruxelles aussi. Pour, justement, quand je disais que j'étais persuadée que les choses ne se passeraient pas de la même manière pour moi, c'est ça. C'était aller militer dans une association de lutte contre le sida et particulièrement militer sur la question de la place des femmes dans la recherche. Parce que c'est avant tout une maladie sexuellement transmissible, mais aussi du coup, quand on n'a pas de réponse à ces questions, quand on veut savoir comment va évoluer la maladie, comment ça va se passer après, plus tard, à l'arrivée des trithérapies, qu'est-ce qui se passait pour nous avec les effets indésirables des traitements. C'était tout ça que j'avais besoin de savoir, et on s'est battu, des femmes dans les associations de lutte contre le sida, et puis on a voulu justement rassembler nos forces, et un jour le planning familial, donc association de lutte pour les droits des femmes, a réuni toutes les femmes qui travaillaient dans les associations de lutte contre le sida sur la question des femmes. Et puis, ensemble, on a créé le premier collectif interassociatif femmes, donc qui s'appelle le collectif interassociatif femmes et VIH. Pourquoi faire compliqué ? Et puis, et justement, bah pour rien aussi que des associations généralistes et puis de lutte pour les droits des femmes ont fait partie de ce collectif. C'est aussi qu'on était toutes persuadées qu'il fallait qu'on en passe par aussi la lutte pour nos droits par rapport à toutes les questions autour des inégalités. Donc aujourd'hui, ce collectif fait tout. On est passé, donc il a 10 ans, plus de 10 ans. On est aujourd'hui 13 associations membres et avec. On vous a ramené quelques actes qui sont sur les tables là-bas. Ça, c'est les actes de la dernière rencontre. Donc, ce collectif, on est à notre. Là, c'était la 7e rencontre. Donc, 10 rencontres, 10 colloques en 10 ans, avec pour objectif de permettre aux femmes de construire, aux femmes séropositives concernées par le VIH, de construire une parole collective et de se faire entendre aussi. Et de pour ça, il fallait qu'on puisse se retrouver. Donc voilà, on essaie d'organiser le plus souvent possible des colloques où des femmes de toute la France et des DOM et viennent rencontrer et échanger avec des médecins, chercheurs, sociologues, échanger les expériences, c'est-à-dire les femmes, leur expérience en tant que femmes séropositives, et puis l'expérience des professionnels ou des experts, et puis qui viennent aussi écouter les femmes, et puis à travers des ateliers de travail aussi, les femmes, ça permet aussi aux femmes séropositives de construire des recommandations et des revendications qui viennent de leur expérience et de leur expertise, de notre expérience et de notre expertise en tant que femmes séropositives. Donc, ce qu'on constate à travers donc ces 7 rencontres femmes et VIH, c'est que justement au niveau de la sexualité, il y a quelque chose comme ça qui fait que. Alors, quand je parle de ces colloques, c'est en moyenne, on va dire à peu près 200 femmes. Et quand on entend 200 femmes qui revendiquent la même chose, on se dit que là vraiment il y a un vrai problème. C'est pas, et même les femmes, pour les femmes qui viennent à ces colloques, c'est aussi quelque chose de très important, puisque souvent on y reviendra tout à l'heure, mais cette question, on l'a abordée aussi, cette question de la discrimination et qui construit ce cercle vicieux de l'isolement, de la possibilité de le dire, de ne pas le dire. Cette question-là fait que on va se mettre, on va s'isoler, on va. Tu as parlé d'auto. Tout à l'heure, d'autocensure, voilà. Alors, et ça va avoir, on va le pratiquer. Les personnes séropositives vont le pratiquer dans leur vie à tous les niveaux, que ce soit social, affectif, sexuel, etc. Ça va être quelque chose comme ça. Et donc, au moment des colloques, quand elles se retrouvent et qu'elles entendent d'autres femmes et toutes les autres femmes dire la même chose, il y a quelque chose comme ça aussi de très important et de fédérateur. Donc les constats, donc au niveau de la sexualité, donc les femmes se sentent moins légitimes et les soignants partagent largement ce point de vue, c'est aussi justement parmi les revendications et les demandes des femmes la question de la non
on parle de la non-visibilité des femmes, mais aussi la non-écoute de leurs problématiques, c'est-à-dire le sentiment que les médecins ne vont pas entendre leur requête, on va dire, en tant que femme, qu'un médecin, lorsqu'il est devant une femme, c'est pas la même chose que quand il est devant un homme. Les problématiques sont pas les mêmes, que ce soit au niveau du soin, mais aussi de la, justement, de la prise en compte et de la maladie. Donc, parmi les autres constats, on constate que les femmes et qui prennent des risques, des femmes qui sont addictes, donc les femmes et l'addiction, pareil, il y a un problème, il y a quelque chose autour de ça. On se rend compte aussi que socialement, c'est plus difficile à aborder quand on est une femme, et c'est plus difficile socialement à être admis. Et donc l'obstacle fort de la stigmatisation dans la qualité de vie. Donc pour les femmes, c'est quelque chose, on a l'impression aussi que pour les femmes, c'est quelque chose qui est, qu'elles rajoutent des couches comme ça. Donc les femmes qui participent aux rencontres et le collectif constatent que la sexualité prend une nouvelle place maintenant. Pour les personnes séropositives dans un contexte d'accès aux ARV. Donc on en parle depuis ce matin, cette histoire des TASP de ce que ça a pu apporter aux personnes séropositives. Alors là, malheureusement, je ne peux pas développer non plus pour ce qui se passe pour les femmes, mais il y aurait aussi énormément de choses à dire sur, sur cette question. Mais on sait quand même qu'il y a quelque chose au niveau de la qualité de vie qui va sans doute, qui apporte en fait des choses, puisqu'il y a aussi la possibilité de parler de la prévention et des relations non protégées dans des couples sérodifférents. Et puis les enjeux justement pour cette question-là autour de la procréation du VIH et la possibilité de pouvoir en parler aux médecins permet aussi pour les femmes à changer beaucoup de choses. Mais par contre, cette approche, donc ça c'est la santé, ce contexte d'accès aux ARV, mais c'est une approche qui doit prendre en compte les inégalités de pouvoir. On doit aussi toujours garder ça en tête entre les hommes et les femmes au regard des révélations du statut. Le fait de dire sa séropositivité, et Michel en a parlé aussi, peut rester quelque chose de très traumatisant, parce que le rejet, donc la discrimination parce qu'on a révélé son statut de femme séropositive, donc le rejet des personnes et la menace de la criminalisation, qui aussi, on ne peut pas l'oublier, et la criminalisation de la transmission du VIH reste un sujet d'actualité auquel il faut faire très attention. Alors, le contexte des TASP, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça apporte dans ce contexte-là? J'ai encore beaucoup de temps.
5 minutes.
Ah, seulement? D'accord. Donc, si je parle de quelques... Je vais passer très vite au niveau des recommandations, puisque j'ai commencé à les énumérer. Recommandations et revendications des extraits du colloque, du dernier colloque, donc. Donc dans le domaine de la formation, voilà, c'est à ça que je voulais venir, c'est que les femmes, par contre, pour les hommes, et notamment les hommes HSH, sont, oui, c'est pour l'embêter, ont beaucoup, il y a justement la communauté fait que il y a beaucoup d'informations qui passent, et au niveau des femmes, c'est pas si simple que ça, et aussi dans le contexte, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire les TASP, qu'est-ce que ça veut dire les PrEP. Alors, il y a l'histoire des microbicides et la demande pour les femmes qui est plus de recherche et qu'on avance plus sur les questions des microbicides, mais au niveau de la vie suisse, par exemple, les femmes se sont plaintes qu'on en parlait, alors que c'était un avis qui était une étude qui a été faite à partir de couples hétérosexuels, et pourtant, quand l'information est arrivée, c'est arrivé par. On a eu beaucoup d'informations sur la communauté gay, mais très peu. En fait, les femmes, du coup, se posaient la question de qu'est-ce que ça voulait dire, comment on voulait dire, comment l'aborder avec le médecin, etc. Et ça, c'est quelque chose qui a été demandé. Alors, les PrEP, n'en parlons pas, c'est aussi quelque chose que les femmes demandent. Donc, quand on parle de l'invisibilité des femmes aussi dans l'épidémie, ça passe aussi par ça. C'est-à-dire, c'est des choses qui. Le manque d'informations, le manque de possibilités. Quelque part, la communauté homosexuelle a cette expérience de la communication que sans doute les femmes n'ont pas. Puisqu'on l'a vu, même on l'a vu par rapport à la promotion du préservatif, quand on voit la difficulté d'avoir la promotion du préservatif féminin, de le faire connaître, c'est aussi pareil un exemple. Donc, par contre, les microbicides, c'est un peu plus ça, c'est une vraie demande aussi des femmes, que les recherches sur les microbicides avancent, parce que pour les femmes, c'est un outil qui leur permettrait de pouvoir gérer elles-mêmes aussi leur prévention. Après, dans le domaine médical, voilà, j'en ai parlé aussi, la prise en compte des spécificités des femmes, au point de vue médical. La coordination de réseaux entre médecins et spécialistes, et ça c'est valable pour tous les malades, mais quand on a plusieurs spécialistes, quand on a plusieurs pathologies associées, ne parlons pas des personnes co-infectées avec une hépatite, ça devient encore plus compliqué. Et puis les femmes demandent une place dans la recherche, que ce soit en sociaux, recherche médicale ou scientifique. Physiologiquement, un homme et une femme, c'est pas la même chose. On doit avoir des résultats genrés, même si c'est pas le mot exact, mais on doit avoir des résultats dans les recherches, dans les études, sur qu'est-ce qui se passe pour un homme, qu'est-ce qui se passe pour une femme en recherche médicale. Mais sociologiquement aussi, vous l'avez bien vu, ça se passe pas du tout de la même manière pour nous les femmes. Et donc, on doit avoir des résultats. Aujourd'hui, on a encore des résultats de recherche où on vous donne des taux. Ça s'est passé comme ça, à 30%, il s'est passé ça, 40%, il s'est passé ça. Et dedans, dans les 30%, c'est quoi? Il y a combien d'hommes, il y a combien de femmes? On ne sait pas encore nous le dire, bien souvent, dans les résultats de recherche. C'est pas la place pour le dire ici, mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de le dire. Donc, dans le domaine des droits sociaux, pareil, accès au travail adapté à l'état de santé, accès aux soins des migrants en situation irrégulière, l'importance aussi, j'y viens, sur la contamination des femmes séropositives et la prévalence des femmes d'origine d'Afrique subsaharienne, avec quelque chose comme ça où c'est quelque chose comme si on rajoute encore une couche. Et puis, sur que ce soit au niveau de la prévention, de la recherche, du statut social, de l'isolement, etc., c'est une complication supplémentaire qui est une difficulté supplémentaire. Et puis, toutes les femmes sont majoritairement, enfin, du moins celles qui viennent en parler dans nos colloques, majoritairement, contre la pénalisation du VIH. Et comme quoi, c'est pas. Là, je vous avais préparé quelques témoignages. Je suis désolée, j'aurais plus le temps de les lire. Mais c'était, par exemple, on parle de la sexualité sur l'abstinence, et voilà, des femmes qui témoignent que depuis 10 ans, c'est pas un problème. Enfin, c'est pas un problème. Elles sont restées abstinentes pendant 10 ans, et puis quelque part, voilà. Après, comment on fait? On ne sait même plus si on va pouvoir être capable d'embrasser quelqu'un, de faire l'amour, et tout ça, ça a été aussi lié à la prise en compte à toutes les femmes, du moins, on va dire les vieilles séropositives, et les traitements, les conséquences des traitements sur le corps, par exemple, fait partie aussi, comme par exemple, parmi les effets indésirables des traitements, il y a les lipodystrophies, mauvaise répartition des graisses, donc avec des corps de femmes qui se transforment, qui se déforment, qui se masculinisent, et quelque chose qui n'a absolument pas été entendu par les médecins, et qui est devenu quelque chose de, qui a eu des conséquences très graves sur la vie des femmes, et qui l'est encore aujourd'hui, puisque c'est pas parce que celles qui ont pris pendant des années certains traitements, qui ont donc connu la lipodystrophie, c'est pas parce qu'elles arrêtent le traitement que les lipodystrophies disparaissent. Donc avec quelque chose comme ça, un corps qui se déforme, donc des conséquences sur la vie affective et sexuelle. Et je suppose que pour les gays, il y a eu aussi ça, mais c'était justement, ça se passait différemment pour les femmes que pour les hommes, avec en plus...
Deux fois plus de
lipodystrophie. Oui. Et en plus, une non-écoute, c'est-à-dire une non-écoute quand... je peux dire « je » là même, pour le coup. Quand je dis à mon médecin que je vois que quelque chose ne va pas, mon corps se transforme, il y a quelque chose qui n'est pas normal, etc. « Ah, mais vous n'allez pas commencer à m'embêter avec ça. Vous êtes vivante, donc on passe à autre chose. » Et puis, ou alors, « faites un régime. De toute façon, vous, les femmes, vous aimez ça, les régimes. » Donc là, on a juste envie de sauter sur le bureau du médecin et de l'étrangler. Je suis désolée, les docteurs, on vous en prenez plein la tête aujourd'hui, mais... Donc voilà, mais heureusement ils ne sont pas tous comme ça. Donc voilà, ça c'est ça sur les conséquences sur la vie des femmes, et surtout une non-écoute, c'est-à-dire l'impression que je vais dire quelque chose, je vais en parler, et on ne m'entend pas, on ne m'écoute pas. Et ça, alors que dans les réponses, par exemple, la place des femmes dans la recherche, pourquoi il n'y a pas plus de femmes dans la recherche ? Ah, parce que c'est compliqué. Bah, la première réponse, c'est compliqué parce que elle pourrait tomber enceinte pendant un essai, ou alors parce que ça pourrait fausser les données. Donc fausser les données, ça veut dire que les données seront effectivement pas les mêmes. Donc voilà, il y a des réponses comme ça. C'est pour vous dire dans quel... En plus, quand il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas d'entente, on est encore plus dans quelque chose de difficile à... Des conséquences, on va dire... les témoignages de Béatrice, là, c'est l'histoire du désir. Voilà. Pareil. Pour, à la limite, les problèmes de libido, de désir, de manque de désir, de problèmes de sexualité, etc. C'est pareil. On le constate, mais on n'a pas de réponse aux questions. Quand on entend. Toutes les femmes le dire, ça commence à faire un peu peur. Et puis là, c'était aussi parler aux jeunes de la sexualité, continuer à leur parler de la sexualité, leur parler de la prévention, parce que aujourd'hui ils entendent quand même pas mal que le sida se banalise, il n'y a plus de problème, que maintenant c'est des médicaments. Et qu'il y a un médicament et que tout va bien, et ben non, c'est pas si simple que ça, puisque la sexualité, ça, c'est quand même un sujet qui peut apporter des peurs pour les jeunes. Alors il faut pas le négliger. L'éducation à la sexualité doit bien inclure l'affectif, le biologique et le social. Ça, c'est les femmes aussi qui le disent. Et puis pour les moins jeunes, voilà, j'y viens. J'en ai parlé un peu tout à l'heure. Là, on parle des femmes, quand je parlais des lipodystrophies, c'est un peu nous, les vieilles séropos, mais il y a toutes les jeunes séropos. C'est-à-dire, pas jeunes forcément dans l'âge, c'est-à-dire jeunes contaminés depuis peu de temps. Et c'est pas forcément dans l'âge, quand je vous parlais des chiffres qui montent sur les contaminations des femmes de plus de 50 ans. Et ça, c'est les jeunes séropos. Elles sont mères, grand-mères, et elles sont les jeunes séropos. Et pour elles, bien sûr, évidemment, les revendications ne seront pas les mêmes. Et pourtant, elles sont dans nos colloques parce que elles savent aussi, elles voient déjà aussi, et elles savent aussi que les choses ne sont pas les mêmes pour elles. Et oui, on a ajouté ça sur les femmes s'expriment, le rôle des femmes vivant avec le VIH. Dans la lutte mondiale contre le sida. C'est en 2012, les femmes qui demandaient, donc c'était l'UNED qui fait paraître ça. Donc les actions prioritaires, défendre nos droits et abroger les lois et politiques qui ne favorisent pas l'égalité entre les sexes, renforcer nos réseaux en tant que partenaires clés en matière de réduction de risque de transmission de l'infection, organiser la coopération stratégique entre les femmes vivant avec le VIH et le gouvernement, la société civile et les organismes religieux impliqués dans la prévention du VIH, veiller à ce que toutes les femmes, notamment les jeunes femmes, puissent accéder à des programmes complets d'éducation sexuelle et bénéficier de méthodes de contraception, et défendre les droits des professionnels du sexe pour assurer leur sécurité au travail. Donc ça, c'est une déclaration des femmes de tous les pays qui a été publiée donc, par l'UNED. Donc on est aussi sur les mêmes... Donc ça, j'en ai parlé, la prévention, le préservatif, la question de la prévention aussi face aux inégalités des hommes et des femmes, il faut en tenir compte, la difficulté d'imposer le préservatif, c'est toujours aussi une difficulté. Et puis, les nouveaux outils de prévention, on a parlé des microbicides, mais les femmes, quand au dernier colloque, on parlait des PrEPS, et puis elles disaient, c'est super, ce sera un progrès pour les gays, puisque c'était la période, on parlait des résultats d'hyper-gays, etc. Et puis, mais aussi, le progrès doit profiter à tous et à toutes. Et puis, aujourd'hui aussi, je veux en deux mots vous parler de cette évolution au niveau du... Ça y est, on y est. On y est, il est 3h25, 3h30, ça va ? Ouais, j'y suis à la fin, c'est bon. J'y suis. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, la contraception des femmes, c'est un sujet très important maintenant. C'est-à-dire, on va dire, c'est un sujet qui peut être parlé et dit. Justement, conséquence des TASP, c'est que les femmes s'autorisent quelque part à parler de contraception, puisque jusqu'à présent... c'est le préservatif, c'était le préservatif, la contraception. Ou alors, même si ça n'était pas, on ne pouvait pas en parler. Et maintenant, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et là, c'était les paroles des femmes séropositives aux autres femmes séropositives pour leur dire que la sexualité... Et je vais terminer en conclusion. Donc, prendre en compte le fait que les représentations des rôles féminins et masculins participent au risque de contamination du sida, mais aussi au vécu de la maladie, à la qualité de vie et à l'exercice de la sexualité. Développer les lieux d'accueil, espace d'échange de savoir, permettre aux femmes de se rencontrer et de se mobiliser ensemble, permettre une reconnaissance sociale du droit à une vie affective et sexuelle, au droit de procréer ou pas, à toutes et tous, et lutter contre l'illégalisation de les législations de la criminalisation. Voilà, donc ça c'était les actes, ça c'est les actes des colloques. Il y en a 7 rencontres que vous pouvez trouver sur le site femmesvih.org. Importance pour nous de diffuser ces actes des colloques parce que c'est diffuser la parole des femmes, c'est inscrire aussi. Parce que inscrire l'histoire des femmes dans l'épidémie, dans l'histoire du sida, et puis ça peut être aussi une source d'information et de plaidoyer. Merci et désolée d'avoir pris un peu plus de temps.